Ça va être très vite fait. Donc, je suis d'origine tunisienne. Je vis en France depuis 2005. J'ai fait donc toutes mes études. J'ai fait mes études de médecine à Tunis, puis mes études de psychiatrie à Paris. J'ai fait ma carrière de psychiatre universitaire. J'ai été donc chef de service et professeur de psychiatrie à la faculté de médecine. La faculté de médecine de Tunis jusqu'en 2005. Puis j'ai pris une retraite anticipée. Je suis venue parce que j'ai été nommée professeure associée à la faculté de médecine de Lyon. J'ai épousé un Lyonnais, donc je suis restée. Voilà, je vous raconte tout. Donc j'ai terminé ma carrière à Lyon. J'ai pris ma retraite. Je suis maintenant donc professeure émérite. Et j'en profite justement, alors là, pour faire tout ce que je n'ai pas fait pendant que j'ai dirigé des services, que j'avais des responsabilités administratives, etc. C'est-à-dire écrire, lire, écrire, faire des conférences, et sur des sujets qui vraiment me tiennent à cœur. Et notamment, un de mes sujets de prédilection de recherche, j'ai dirigé une unité de recherche qui s'appelait la santé mentale des femmes. Voilà. Donc, ce que je vais essayer de... Voilà, grosso modo, donc, pas la peine d'aller plus loin. Oui, j'ai écrit un livre, vous trouverez chez M. Louvet, il vous le montrera, qui a été publié chez Odile Jacob il y a 2 ans, qui est un petit peu... Enfin, je vais vous faire un petit peu le condensé. Et si ça vous intéresse, bon, vous l'avez, M. Louvet, là ? Non, sinon je montrerai, ça fait rien, je montrerai à la fin. Donc, ce que je vais essayer de partager avec vous ce soir, c'est le fruit à la fois de mon vécu de femme arabo-musulmane, même si dans l'intervalle, finalement, j'ai fait toutes mes études en France et que je suis devenue française, et surtout de mon expérience de psychiatre, qui a entendu pendant près de 40 ans, maintenant, des milliers de femmes de toutes origines, de toutes catégories sociales, de tout niveau d'instruction, etc., qui a entendu ces femmes venir lui confier vraiment leur angoisse. Et une angoisse qui se conjugue non seulement au présent, mais surtout au futur. Et mon Dieu, comme elles avaient raison. Donc voilà, je vais essayer de parcourir avec vous. J'ai vu que le titre, un petit peu de votre thématique, c'est chemin, etc.
Racines et chemin. Hein ? Racines et chemin.
Eh bien, ça tombe très bien, justement. On va parcourir le chemin de ces femmes dont l'angoisse confiée au psychiatre est un véritable cri d'alarme adressé aux citoyens du monde entier. Et je suis très honorée, finalement, de pouvoir me faire le porte-parole de cette souffrance. Alors, en effet, ce que trop de monde ignore encore, c'est que les femmes payent un très lourd tribut aux troubles mentaux. Voilà. Vous verrez sur ce tableau, la première inégalité, si j'ose dire, entre hommes et femmes, c'est face aux troubles mentaux. Retenez. Regardez juste les chiffres en rouge, vous voyez le sexe ratio pour les pathologies les plus fréquentes. Les plus fréquentes, c'est-à-dire qui représentent 35% de la population générale. Et une femme sur trois au cours de sa vie est exposée à avoir une dépression. Oui. Partout, dans le monde entier, ça ce sont des chiffres, mais dans le monde entier ça a été répliqué. Bon, et seulement la moitié des hommes. Enfin seulement, c'est déjà beaucoup, mais je veux dire, bon, le sexe ratio est de 2. 2 fois plus de femmes sont exposées à présenter un trouble dépressif ou un trouble anxieux. Voilà, les pathologies vraiment les plus fréquentes. Alors que pour des pathologies très graves comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, oui, le sexe ratio est égal à 1. C'est équitablement réparti. Décidément, d'alerte en alerte. Voilà. Alors, en dehors de l'Occident, donc ça, c'était des études, évidemment, occidentales. Les études sont plus rares dans les pays arabes et musulmans, mais leurs résultats concordent avec les données internationales. Une étude relativement récente, faite en Iran en 2005, rapporte exactement la même chose, des taux de troubles mentaux deux fois plus élevés chez la femme, 14%, que chez l'homme, 7%. Alors, la gravité de la dépression, c'est, comme dit l'OMS, c'est le plus lourd fardeau pathologique pour les femmes, toutes pathologies confondues. Bon. La seule dépression rend compte de 30% du handicap, du trouble neuropsychiatrique chez les femmes et 12% chez les hommes. La gravité de la dépression est liée à son potentiel de récurrence, 35% dans les deux premières années, 65% dans les 12 ans. La dépression, ça rechute et ça récidive. Mais également son potentiel de chronicité, une dépression sur 5 devient chronique et de suicide qui va jusqu'à 20%, sans compter son impact sur la santé des enfants. C'est-à-dire que la dépression, justement, est une pathologie sérieuse, très sérieuse. Alors, le suicide notamment, d'après l'OMS, c'est un problème majeur de santé publique pour les femmes et les jeunes filles partout dans le monde. Oui, ce que je vais vous montrer, parce que dans, le titre c'était au départ « Les femmes musulmanes entre religion et tradition ». J'ai enlevé le terme de musulmane, j'ai beaucoup parlé de l'islam quand même, pour vous montrer que le problème concerne toutes les femmes, qui ne concerne pas que les femmes musulmanes. Bon, évidemment, à des nuances que je préciserai. Alors, donc, par exemple, le suicide concerne toutes les femmes. Il représente la 7e cause de mortalité chez les femmes de 20 à 59 ans. Donc, quand même, une tranche d'âge de femmes très actives, de femmes jeunes, de femmes dynamiques, à l'échelle planétaire. Et la 5e au sein du groupe des 25-44 ans, encore plus jeunes, devant les accidents de la route. Et pourtant, on parle bien plus souvent des accidents de la route, à ma connaissance, que des conduites suicidaires. Alors, le sexe ratio, alors, il est parfaitement établi depuis toujours, depuis qu'on a commencé à faire des études épidémiologiques, que le suicide concerne surtout les hommes. Là, par contre, les hommes se suicident. Mais on est en train de constater que le sexe ratio tend à s'équilibrer, voire à s'inverser dans certaines parties du monde, notamment en Chine, et c'est vraiment partout. Dans les zones rurales, le suicide est la première cause de décès chez les femmes adultes, qui sont deux fois plus nombreuses que les hommes à se donner la mort. Mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est les études qui commencent à indiquer une montée en fréquence des conduites suicidaires létales parmi les jeunes femmes dans les pays islamiques, notamment l'Arabie Saoudite, les pays les plus islamiques des théocraties, l'Iran, le Pakistan, la Turquie, comme le rapporte une revue très récente de la littérature en 2010. Nous avions déjà observé ce phénomène en Tunisie depuis les années 90. Alors, ce que j'appelle mère déprimée, enfant en danger, c'est que, bon, les femmes, vous savez que la prévalence, une femme sur 10 risque de présenter une dépression au décours d'un accouchement. C'est quand même pas mal. Or, une étude montre que le tiers des enfants de mères dépressives sont à risque de développer, en même temps que la mère, une dépression ou un autre trouble mental, et près de la moitié, 45%, sont exposés au risque de développer au cours de leur vie des troubles psychiatriques divers. Il suffit de traiter la mère pour traiter l'enfant, ce qui montre très bien que la pathologie de l'enfant est liée à celle de la mère. Donc, l'impact sur la santé des enfants est très important. Alors, il est évident que cette plus grande vulnérabilité de la femme aux troubles mentaux, et notamment à la dépression, est due à des facteurs biologiques. Ce n'est pas par hasard que c'est après l'accouchement. Donc, des facteurs notamment hormonaux. Bon, on connaît très bien les troubles dysphoriques prémenstruels, donc tout ce qui accompagne la vie physiologique. Il y a des troubles spécifiques à la femme. Mais ça ne suffit pas à expliquer la différence. Il est certain que la santé est aussi déterminée par le statut social. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est en partant de la santé mentale des femmes, moi, que j'en suis venue, justement, que j'ai abouti à l'inégalité. Enfin, je suis partie de la différence des sexes pour aboutir à l'inégalité des genres. Alors, donc, l'OMS a dit en 1998, a statué solennellement en disant « La santé des femmes est inextricablement liée à leur statut social. » Elle bénéficie de l'égalité et pâtit de la discrimination. N'oubliez jamais ça. Et un auteur arabe bien connu, égyptien, en 2001, écrivait « Des facteurs culturels émanant principalement de la position de subordination des femmes dans les communautés arabes influencent la prévalence, c'est-à-dire la fréquence, l'évolution et le traitement des troubles mentaux chez la femme. » Alors, l'auteur qui a fait la revue de la littérature dont nous parlions tout à l'heure impute l'augmentation des conduites suicidaires féminines dans les pays musulmans à la conjugaison de facteurs qu'il appelle les 4 M. M comme méthode de suicide, parce qu'elles utilisent des méthodes malheureusement hautement toxiques, la pendaison, bien des poisons, mental, trouble mental, à la faveur donc d'une dépression généralement, mariage forcé, et M comme masculine, domination masculine. Et conclut, ce que révèlent ces conduites accomplies par des femmes jeunes, mariées, analphabètes et pauvres, c'est la souffrance de ces femmes dans des sociétés patriarcales conservatrices. Alors, je vais vous donner un exemple particulièrement éloquent. Nous avons fait deux études avec la même méthodologie. Je vous passe sur les détails. C'est pas très intéressant, mais c'est pour montrer que c'est la même méthodologie qu'on a utilisée en Tunisie et aux Émirats Arabes Unis. Bon, pour évaluer sur des échantillons représentatifs de la population générale, à peu près 5000 personnes en Tunisie et 1300 aux Émirats Arabes Unis, pour évaluer la prévalence de la schizophrénie et de la dépression. Alors regardez, donc là-haut, sur la moitié supérieure de la diapositive, vous voyez la schizophrénie. Il n'y a aucune différence entre les sexes. Mais vraiment, aucune, parce qu'on sait grosso modo aujourd'hui que la schizophrénie est une maladie biologique. Bon. Par contre, concernant la dépression, regardez, il y a une légère supériorité féminine en Tunisie, mais par contre, aux Émirats Arabes Unis, la dépression est 6 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Or, quelle est ? Il y a beaucoup de différences entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis, à part qu'il y a une communauté quand même de culture, de langue, de religion. Bon, effectivement, bon, ils sont peut-être plus riches que nous, mais la différence la plus importante concerne le statut des femmes. Vous savez très bien que la Tunisie est le seul pays au monde arabo-musulman à avoir établi l'égalité entre les sexes depuis plus de 50 ans. Je ne sais pas si ça va durer, mais enfin, pour le moment, nous y sommes encore. D'où ma question, l'émancipation des femmes confère-t-elle une protection contre la dépression ? Alors justement, en partant de là, on réalise que l'inégalité entre hommes et femmes multiplie tout au long de la vie de la femme, c'est pour ça que je vais parler de chemin, les facteurs et les situations de risque propices au développement de troubles mentaux. Et je vais vous montrer que les femmes, notamment musulmanes, ont très peu de droits intangibles, auxquels on ne peut pas toucher, et nous sommes en train d'y assister malheureusement encore une fois, et tant de devoirs imprescriptibles. C'est ce que j'ai appelé, enfin, c'est drôle de le dire pour des femmes musulmanes, mais c'est quand même un chemin de croix. Bon, je n'ai pas trouvé d'autre expression, malheureusement. En commençant par le droit à la vie. Eh bien, il n'est toujours pas garanti. Évidemment, le serpent, ça vous rappelle quelqu'un. Bon. Le Fonds des Nations Unies d'aide à la population, dans son rapport annuel de 2003, titré carrément « La discrimination contre les filles est une question de vie et de mort ». Alors, je vous cite un extrait d'une chanson populaire indienne. « Pourquoi es-tu venue au monde, ma fille, quand un garçon je voulais ? Va donc à la mer remplir ton seau, puisses-tu y tomber et t'y noyer ?» Et en préfaçant un très beau livre qui s'appelle « La moitié du ciel », c'est l'expression chinoise pour les femmes, Manon Loiseau, grand reporter, écrit « L'élimination quasi systématique de la femme à venir est en marche dans une grande partie de l'Asie. » Là, c'est vraiment une question de vie et de mort. On n'est pas en train de parler de santé mentale encore. Quelques chiffres. 100 millions de femmes sont portées manquantes dans le monde. Cette année, on l'estime à 120. Victimes d'avortements sélectifs ou de décès prématurés par infanticide ou négligence. Évidemment, quand l'échographie montre que c'est plutôt une fille qu'un garçon, on avorte. Quand on n'a pas pu faire une échographie, ben, c'est à la naissance ben, qu'on va étouffer l'enfant, ou bien le laisser mourir de faim ou par négligence. 2 millions de petites filles meurent de faim chaque année parce que leurs parents ont préféré nourrir et soigner leurs frères. Donc elles seront 2 millions de plus à ne pas naître cette année, chaque année. Et selon les meilleures estimations, toutes les 4 minutes, une petite indienne meurt à cause de la discrimination sexuelle. Et tout ça aboutit à une inversion des sexes ratios, parce que naturellement, tous les démographes le savent, à la naissance, il y a un peu plus, jusqu'à l'âge de 6 ans, il y a un peu plus de garçons que de filles. Et bien ce sexe ratio est complètement en train de s'inverser en Chine, en Inde, au Pakistan, pays musulmans. Parce qu'on tue les petites filles. Et pourquoi ? À cause de cette fameuse malédiction originelle. Vous savez, Ève n'était pas que catholique, elle était musulmane aussi, apparemment, bon, puisque nous payons le prix de la même malédiction originelle. Parce que mettre au monde un nourrisson féminin est une véritable malédiction, vraiment, dans nos sociétés, surtout les plus traditionnelles, pour l'enfant comme pour la mère. Dans les sociétés où la préférence pour les garçons est explicite. Beaucoup d'Arabes pourraient vraiment se référer à ce proverbe indien, élever une fille, c'est comme arroser le jardin du voisin. Sympathique. Bon. Et pourquoi ? Parce que la fille est incapable de transmettre le patronyme et le patrimoine familial, parce que la fille représente surtout un danger potentiel pour l'honneur de la famille, qu'elle seule peut entacher. Ça me rappelle Feu Saddam Hussein. Bon, lors de la première guerre Irak-Iran, on était allé l'interviewer. Et puis lui à l'époque, que se disait laïque, il préconisait et prônait l'émancipation des femmes, etc. Et au point qu'effectivement, il avait même intégré des femmes dans l'armée. Alors le reporter lui avait demandé, mais pourquoi bon, vous avez des femmes officiers, vous avez des femmes dans l'armée, mais on ne voit pas de soldats au front à l'égal des hommes. Ah, il a dit, non, mais pas question, parce que si jamais l'ennemi s'empare d'une Irakienne, c'est l'honneur de tout l'Irak qui en serait soumis. Donc, ça, vraiment, ça m'avait frappé, mais c'est en fait ça. Le garçon ne déshonore pas, hein, vous savez. Dans nos sociétés, un homme, même quand il va en prison, les rondis, la prison, c'est pour les hommes. Les vrais. Bon. Mais il n'y a que la fille qui peut déshonorer, donc non seulement sa famille, mais la nation tout entière. Enfin, la fille aggrave le statut social de sa mère. Évidemment, une femme. Alors, c'est là où, je dis, moi, toutes les religions sont un petit peu... n'ont jamais été très tendres avec les femmes. J'ai une amie qui vient d'écrire justement quelque chose sur les femmes dans le christianisme et qui m'a rapporté l'histoire d'une femme, très bonne société française, de souche, et sa belle-mère est venue la féliciter pour la 3e fille consécutive. Bon, et la belle-mère qui lui dit « Heureusement que tu aimes bien les filles. » Bon, voilà, donc, c'est déjà, c'est pas très méchant, mais enfin, on sent qu'elle n'est pas très heureuse. Alors, en Tunisie, une femme sur trois considère que la mère qui n'a pas enfanté de garçon a un statut inférieur. La pauvre. Alors que l'islam condamne, mais explicitement, la préférence pour les garçons. Je vous cite un verset. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, il suffoque, il se tient à l'écart, loin des gens, à cause du malheur qui lui a été annoncé. Va-t-il conserver cet enfant malgré sa honte, ou bien l'enfuira-t-il dans la poussière ? Évidemment, ça fait référence au procédé d'infanticide qui avait cours donc, avant l'avènement de l'islam, qui avait perduré un peu après. Leur jugement n'est-il pas détestable ? Et le prophète a dit... Quiconque a une fille et ne l'enterre pas vivante, ne la blesse pas et ne lui préfère pas un garçon, donc c'est dit clairement, sera accueilli par Dieu en son paradis. Je vous rappelle que le prophète de l'islam n'a jamais eu de garçon. Enfin, il a eu des garçons qui sont morts en bas âge. On l'appelait d'ailleurs le père des filles. Bien, pour celles qui survivent, heureusement la majorité quand même, ont-elles droit au moins à la liberté? Pas du tout. La liberté, elle est conditionnelle et surveillée. Alors, vous avez un proverbe, un dicton maghrébin qui dit « La femme ne sort que trois fois dans sa vie », c'est-à-dire ne doit sortir que trois fois dans sa vie. Une première fois du ventre de sa mère, une seconde fois pour se rendre chez son mari, et une troisième fois pour être conduite au cimetière. Là, au moins, ouais, c'est très clair. C'est très clair. Mais aujourd'hui, la constitution iranienne, l'article 21, est prescrit. La mixité est considérée comme un péché répréhensible. Constitution, c'est dans la constitution. Évidemment, il faut préserver, on y revient à ce fameux honneur, préserver à tout prix la virginité qui symbolise l'honneur familial jusqu'au mariage. Évidemment, il faut éviter la mixité, occulter la féminité, il faut porter des vêtements informes, vous savez, certainement pas moulants, ne pas se maquiller, etc. Multiplication des interdits, j'y reviens, l'excision, qui a entre autres pour rôle, effectivement, de réduire l'appétit sexuel, bon, de ces petites louves. Interruption de la scolarité à la puberté, généralement, bon, dans ces sociétés-là, dès qu'on a des dessins qui pointent, etc., fini avec la scolarité. Et évidemment, ce qui explique pour moi la psychiatre, plus tard, beaucoup de tentatives de suicide dans un contexte conflictuel, vous savez, c'est parfois, mais vraiment pour une histoire, parce qu'elle a dénoué ses cheveux, ou bien parce qu'elle a voulu mettre une jupe un peu plus courte, etc. Bon, que le drame éclate dans la famille et que la seule issue, c'est d'aller s'intoxiquer d'une manière ou d'une autre, ou bien du trouble sexuel. Évidemment, ça fait le lit de tous les futurs troubles sexuels, comme le vaginisme, c'est-à-dire avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Elle a disparu plutôt. Le vaginisme, c'est l'incapacité, finalement, donc de pouvoir déflorer, c'est la contraction telle du vagin, donc qui a une incapacité, c'est ce qu'on appelle les fameux mariages blancs. Alors, ça c'est une étude, justement, qui a été menée dans tous les pays de la Ligue arabe en 2002, et en particulier, moi j'ai pris les résultats pour la Tunisie, qui est censée être le pays le plus avancé. Ça concernait quand même 7000 familles représentatives de la population générale. C'est pas rien. Et ça, la question, on l'a posée uniquement aux femmes. Des femmes mariées, âgées, et pas très âgées. Hein. On n'a pas voulu prendre des femmes très âgées parce qu'on s'est dit, bon, elles sont conservatrices, etc. On a pris des femmes entre 20 et 49 ans, je crois. Et regardez, seulement 40% estiment qu'une jeune fille, évidemment, peut voyager seule, avoir des sorties mixtes, évidemment, 40%. 50% qu'elle peut habiter seule, et habiter seule, c'est uniquement pour des raisons de scolarisation ou de travail, hein. C'est pas pour le plaisir d'aller habiter seule, parce que là, il n'en est même pas question. Bon. Elles sont 60% quand même à accepter qu'elle ait un petit ami, mais évidemment, parce que ça accroît les chances du mariage, tout simplement. Donc, vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge après 50 ans d'indépendance. Trois générations nourries, ben on voit le résultat. Et voilà pourquoi, bon, votre fille n'est pas muette, mais nos fillettes sont voilées. Alors, et regardez l'exploitation par ces gens que j'appelle des pédophiles, moi, il n'y a pas d'autre terme. Bon, l'exploitation qu'ont fait des petites filles. Regardez, Stop French Hijab Ban. Donc, mais faire porter à cet enfant adorable un slogan invitant la France, vraiment, à ne pas interdire le voile, je veux dire, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Hallucinant. Voilà. Regardez cette petite, tout en bas. Elle est tellement mignonne. Et, bon, moi, elles me font beaucoup de peine parce que, regardez, est-ce qu'elles ont l'air heureuses? Mais il n'y a plus de normal. C'est bien pour ça que je vous montre. Normalement, s'il y a une normalité quelconque, c'est à partir de la puberté. C'est ça. Or, rien à voir manifestement avec la religion, les excès encore une fois, mais vous avez vu la tête un petit peu de ces prédicateurs barbus. Moi je... ça me rend malade ça. Alors, passons, le droit à l'instruction, point trop n'en faut. Bon, vous savez très bien que dans le monde, les femmes restent les principales victimes de l'analphabétisme et de l'illettrisme. Les deux tiers du milliard d'adultes illettrés sont des femmes vivant essentiellement dans les pays peu développés. Et les deux tiers des 130 millions d'enfants non inscrits dans l'enseignement primaire sont des filles. Évidemment, c'est toujours les filles qui sont sacrifiées, même quand elles ont de meilleurs résultats que leurs frères. Regardez, ça c'est des résultats, des statistiques relativement récentes dans les trois pays d'Afrique du Nord, tout proche de l'Europe. Je veux dire, une influence occidentale très importante. Partout, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à être analphabètes. Voilà. Les femmes sont en bleu. Voilà. J'ai fait exprès d'inverser. Hein. Pour une fois, j'ai mis les hommes en rouge et les femmes en bleu. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et pourtant, alors, l'analphabétisme est un puissant facteur de risque morbide, on le sait. Bon. Et il y a un rapport très marqué, surtout entre le niveau d'instruction et la mortalité de la mère et la mortalité infantile. Dans les pays pauvres où l'accès aux soins est souvent limité, chaque année supplémentaire de scolarité s'accompagne d'une baisse de 5 à 10% de mortalité infantile. Il suffit d'instruire la mère pour diminuer la mortalité infantile. Évidemment, parce qu'elle est plus réceptive aux conseils, à l'hygiène, etc. Et regardez d'ailleurs en Tunisie, on l'a démontré. Regardez les mères analphabètes en bleu et les mères instruites. Le taux de mortalité infantile est vraiment réduit de moitié. Alors évidemment, moi je ne peux pas ne pas penser à Rousseau. Ça n'a rien à voir à la religion. Il l'avait bien dit. J'aimerais 100 fois mieux une femme simple et grossièrement cultivée qu'une femme savante et bel esprit. Une femme bel esprit est le fléau de son mari, de ses enfants, de ses valets, de tout le monde. Dans la sublime élévation de son beau génie, elle dédaignera tous ses devoirs de femme. Voilà. Tous les hommes sont les mêmes.
Mais oui.
Et pourtant, encore une fois, Iqra en arabe signifie « lis ». C'est la première parole du Coran. C'est le premier mot du Coran. « Lis ». Et il s'adresse à tout le monde, il lit. Il n'a pas dit « les hommes lisez ». Non, « lis ». Il y a des hadiths du prophète qui disent « la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman ». Tout musulman. Tout homme qui, ayant une fille esclave, l'instruit, esclave, et lui donne une bonne éducation, aura une double récompense. On parle de l'esclave, on ne parle même pas de sa propre fille. Et le hadith célèbre qui dit « Recherchez le savoir, la connaissance, de la naissance à la mort et de l'Inde à la Chine. » Partout, partout, il faut aller chercher le savoir. Alors, l'instruction, évidemment, va déboucher sur le travail. Alors, le droit de travailler... Eh bien, pour faire un petit clin d'œil à mon ami Sarkozy, donc c'est travailler plus pour gagner moins, en réalité. Alors, le principal problème de santé mentale associé au travail est ce qu'on appelle le job burnout, identifié dans les années 70 comme un trouble psychologique qui se développe à la suite d'un stress professionnel prolongé. C'est un Freudenberger qui a démontré dans Women's Burnout. Alors, au départ... On a dit, il n'y a que les hommes qui sont exposés. C'est toujours comme ça. Les hommes sont exposés au burn-out. On en a fait la maladie des managers, des grands PDG, etc., qui sont consumés, effectivement, à force de se triturer la cervelle. En réalité, en 85, Freudenberger a démontré dans Women's Burnout que les femmes sont de plus en plus exposées à ce risque. Et il dit, je pense que ce risque est en partie dû à la multiplicité des rôles qu'elles jouent, comme mère, comme épouse et comme professionnelle. Et ça, je suis sûre que toutes les femmes de l'assistance se reconnaîtront. Alors, ce n'est pas rien le job burnout. Bon, on parle de suicide, etc. Mais derrière, il y a souvent un burnout. Les conséquences d'abord professionnelles, sont très importantes, l'évitement du travail, l'absentéisme, rendement minimal, etc. Risque majeur pour la santé mentale, c'est d'évoluer vers une véritable dépression, parce que le burn-out diffère de la dépression en ce qu'il est attaché purement au travail. C'est-à-dire que les gens disent « Sortez-moi du travail et je me sens très très bien, j'irai très très bien ». Ça peut effectivement envahir de proche en proche toute la vie de la personne et baisse de l'estime de soi. Retentissement négatif sur la vie privée, ben évidemment, il y a des conflits conjugaux, etc. En fait, on décrit 6 facteurs de risque, regardez-les. Ils sont faits pour les femmes. La charge de travail, évidemment, c'est les rôles multiples de la femme. Le contrôle du travail, elle n'a aucun. Comme les femmes en général, en majorité, sont employées dans des emplois, dans des postes de subordonnés. Elles ont très peu de contrôle, ou bien elles travaillent à temps partiel, etc. Elles ont très peu de contrôle sur leur travail. La récompense et son pouvoir de renforcement. Bon, alors, pour les femmes, c'est le manque de reconnaissance totale, aussi bien sur le plan financier, puisqu'on sait très bien qu'il y a une différence de salaire d'au moins 30% entre hommes et femmes, mais même un manque de gratification morale, je veux dire. Bon, en tout cas, dans nos sociétés, moi, je vois, bon, personne ne lui en est reconnaissant, la femme qui travaille. Quand elle arrive en retard au boulot parce que son gamin a eu la fièvre ce matin-là, et qu'elle ne savait pas quoi en faire, et ben le patron va lui dire « Moi, ce n'est pas mon problème. » Mais si le soir, le repas n'est pas prêt et la chemise n'est pas repassée, le mari va dire exactement la même chose. « Moi, ce n'est pas mon problème, ton travail. » Bon. La violence, alors ne parlons pas de la violence au travail, comme dans tout l'espace public, les inégalités. On sait qu'effectivement, elles souffrent également de toutes sortes d'inégalités, de harcèlement, etc. Et de conflits de rôle. Surtout, la femme, du coup, ne sait plus très bien, finalement, où est son vrai rôle. Bon, est-ce... Parce que chacun la renvoie comme une balle, on la renvoie à son rôle de mère, les uns, et d'épouse, et l'autre la renvoie à son rôle de professionnelle, et puis elle sait plus quoi faire. Alors, pour vous montrer, ça c'est une étude qui a été également... Toujours l'étude que je citais tout à l'heure... en Tunisie. Alors... Vous voyez, on a demandé, on a essayé d'évaluer la part que prenaient les pères et les mères dans l'éducation, la scolarisation, la santé et la sanction, même la sanction, la punition des enfants. Et regardez là aussi, c'est les femmes en noir là. Donc, c'est les mères qui sont 2 à 4 fois plus impliquées donc, dans l'éducation des enfants, l'élevage, la santé et même la punition qui normalement était du rôle du père. En France, selon l'INSEE en 2001, les femmes consacrent 2 fois plus de temps aux tâches parentales et domestiques que les hommes. 33 heures par semaine. Mais, il ne faut pas désespérer, il y a une progression chaque année d'une minute. Alors, en plus, bon, dans nos sociétés, il y a des facteurs de risque spécifiques. Parce que dans les sociétés islamiques, la suprématie masculine est strictement subordonnée au devoir de l'époux de subvenir seul aux besoins de sa famille. Et c'est le fameux verset 34 du Coran. Les hommes ont autorité sur les femmes à cause des dépenses qu'ils font pour leur entretien. Les femmes de bien sont en conséquence obéissantes. Des petites filles bien sages. Donc, au total, trop de responsabilités, trop peu de contrôle, trop peu de récompenses, trop de violence, trop d'inégalités, trop de confusion concernant l'identité et les valeurs, absence de perspectives et de solutions en vue, et tout ça nous donne le burn-out. Donc, à ce stade, on voit bien que la vie, la liberté, l'instruction et le travail ne sont pas encore des droits acquis pour les femmes. Et je vous assure, même dans les pays démocratiques, les pays les plus avancés, hein, ne baissez surtout pas la garde. Alors que virginité, rigidité, fertilité et obéissance leur sont encore des devoirs. Alors, le droit à la santé sexuelle, c'est un droit de l'homme. Enfin, la femme n'y a pas droit. Alors, je vous cite juste l'OMS, Et elle-même reconnaît la reconnaissance des droits sexuels, notamment pour les femmes, n'est pas encore pleinement acquise. C'est clair. Aurélie Léo qui dit « Il n'existe que deux états acceptables pour la femme, vierge ou mère. » L'idéal, c'est d'être les deux. Évidemment. Et Malek Chebel, la jouissance permise pour la femme est d'être mère. Ça suffit. Voilà. Alors, évidemment, ça implique le devoir de chasteté. L'accomplissement sexuel demeure une prérogative masculine et le devoir de chasteté n'incombe qu'aux femmes. Ça, on n'en voudra jamais à un homme. La loi française elle-même avait poussé, je veux dire, l'inégalité à ce point, il y a quelques années, puisqu'elle ne sanctionnait pas l'homme adultère, sauf si l'adultère avait lieu dans le lit conjugal, bien entendu. Mais la femme, si... Oui.
En tout lieu.
En tout lieu, voilà. Donc, c'est pour dire, bon, c'était hier, hein, c'était pas il y a deux siècles. Bon. En Tunisie comme au Maroc, des études ont montré que la virginité demeure, une, je cite, « une règle religieuse et sociale à sauvegarder pour 90% des Tunisiennes et 99% des Marocaines ». Il y a quand même une qui a osé probablement dire non. Et l'infidélité est considérée comme tolérable pour les hommes, voilà, mais impardonnable pour 80% des femmes. C'est impardonnable. Alors évidemment, les fameuses mutilations génitales, qui sont destinées à réduire l'appétit sexuel des femelles, risque élevé de suicide et d'homicide associé à la transgression du tabou sexuel, la perte de la virginité est la principale cause de suicide des adolescentes dans nos sociétés. Alors, et un recours de plus en plus fréquent à l'hyménorrhaphie, c'est-à-dire la réparation de l'hymen, qui, selon une étude, en Égypte, aurait permis de réduire de 80% les meurtres commis quand une fiancée est découverte non vierge la nuit de noces. Alors, évidemment, le drame, ça explique également le drame des grossesses illégitimes, qui sont très sévèrement condamnées, les grossesses hors mariage, associé à de nombreux problèmes sociaux, fugues, agressions, homicides, associé à de nombreuses complications psychiatriques et à l'abandon, conduisent à l'abandon du nouveau-né dans 70% des cas. Alors, le devoir de frigidité, ça va avec, en réalité. Fatima Mernissi disait « Toute la structure sociale musulmane peut être conçue comme une série de mesures visant à endiguer la sexualité de la femme, considérée comme potentiellement dangereuse pour l'ordre social. » Il faut l'occulter, il faut l'envelopper, il faut la cacher, cacher surtout sa féminité, etc. Et de préférence, l'éduquer à l'absence de désir et de plaisir, à coup de mutilation génitale, si nécessaire. C'est la meilleure garantie. Dans une enquête en Tunisie, elles étaient près de 80% à n'avoir reçu aucune information sur la sexualité avant le mariage. 80%. 70% à ne pas connaître l'anatomie des organes génitaux, on n'avait aucune idée. 90% à désapprouver les relations sexuelles prémaritales, 60% à considérer les relations conjugales comme un devoir social et religieux, et 50% à s'avouer indifférente à l'abstinence sexuelle. Une enquête plus récente réalisée au Maroc a rapporté exactement les mêmes données. C'était en 2010. L'éducation sexuelle est perçue comme ayant un impact négatif sur les enfants par le tiers des femmes interrogées. La masturbation est interdite, toujours pour les femmes interrogées, hein, pour 83% d'entre elles, interdite par la religion pour 90% des femmes interrogées et n'entraîne que honte et culpabilité. Mais en réalité, et c'est là que je reviens aussi vraiment à l'ensemble des femmes, je dis que c'est un problème. L'inégalité entre les genres concerne les femmes du monde entier. Les dysfonctions sexuelles féminines sont un trouble fréquent et ignoré sous toutes les latitudes. Une très grande, une première étude de la NHSL aux États-Unis, qui avait concerné un échantillon de 1410 hommes et 1749 femmes de 18 à 59 ans, a retrouvé une prévalence de troubles sexuels de 43% chez les femmes et de 31% chez l'homme. Bien plus important. Un taux identique, 44%, a été retrouvé par une enquête plus récente qui a concerné 32 000 femmes, pratiquement, adultes aux États-Unis. La baisse du désir sexuel était le trouble sexuel le plus fréquemment signalé, près de 40%. Une récente étude en 2010 en Haute-Égypte, auprès de 601 femmes mariées, a retrouvé une prévalence pratique particulièrement élevée du dysfonction sexuelle, près de 80%, dont une majorité de baisse du désir. Donc, c'est vraiment le trouble sexuel le plus fréquent chez la femme. Alors, miracle, on a découvert un médicament, le Viagra féminin, la flibanserine. Vous en avez entendu parler ?
Non.
Certainement pas. C'est le premier médicament proposé dans le traitement de la baisse du désir féminin et qui a démontré une efficacité certaine. Il a été retiré de la commercialisation après le refus de la FDA, la Food and Drug Administration américaine, c'est elle vraiment qui régit tout ça, et la controverse entourant le diagnostic de désir sexuel hypoactif et de désir normal chez la femme. Le Viagra, quand il a été commercialisé, mais ça a été un succès planétaire.
Ah oui.
Et vraiment planétaire. Personne n'a remis en question aucun diagnostic, n'a remis en question l'agressivité des firmes pharmaceutiques, etc. Il a suffi. Là, mais vraiment, il n'y a que les, à la limite, les professionnels de santé, hein, qui ont, avant qu'un produit ne soit commercialisé, qui en avaient entendu parler. Les sexologues, les gynécologues, etc. Bon. Mais il y a eu des professionnels, des médias pour s'emparer du sujet et créer une polémique telle qu'il a été retiré de la commercialisation. En tout cas, ça n'existe pas. Ça, que ça veut dire baisse du désir chez la femme. Mais c'est normal. Alors, où se situe la barre pour le désir féminin ? Ce sont ces messieurs qui décident. Alors, même le mariage est un facteur de risque pour la santé mentale des femmes. On le savait depuis Durkheim, comme le rappelle Badinter, que le mariage coûte aux femmes et avantage les hommes, à tout point de vue. Ça protège les hommes et ça désavantage les femmes. Une étude récente menée par l'OMS dans 15 pays sur une population de 34 500 personnes montre que le mariage réduit le risque d'apparition d'un trouble dépressif et anxieux uniquement chez l'homme. Et la femme mariée serait seulement protégée contre les conduites addictives. Bon, elle boit moins, c'est tout. Alors, que dire du mariage en pays d'islam ? Ça, c'était donc le pays partout. Il est particulièrement tragique de constater que pour les femmes musulmanes, surtout les plus jeunes, le mariage peut être une situation à risque qui peut les conduire au suicide. Évidemment, ce sont les mariages forcés, le mariage précoce, le mariage polygyne, le mariage forcé. Alors, en usage, évidemment, vous le savez bien, bien que contraire aux enseignements de l'islam qui exigent le consentement de la jeune fille. Il est en usage même dans les pays occidentaux. On l'estime à peu près 70 000 en France. C'est-à-dire même les pays occidentaux ferment les yeux au nom du relativisme culturel, du droit à la différence, du respect de la culture d'autrui, nanani, nanani, nanana. Bon. Alors que c'est une cause majeure d'abus physiques et de complications psychiatriques, surtout ce qui est souvent le cas quand il est précoce, parce que c'est surtout une petite fille qu'on peut forcer à se marier. Ben oui, on peut se marier à l'âge de jouer à la poupée. Je dis ça parce que le prophète... On renvoie tout au prophète. Parce que le prophète, effectivement, avait épousé sa préférée, Aïcha, à l'âge de 9 ans. Mais il l'avait laissé jouer à la poupée. Il n'avait pas consommé le mariage. C'est lui qui le raconte. Bon, il a attendu qu'elle grandisse. Alors, en Tunisie, c'est un proverbe que j'aime beaucoup. La sagesse populaire conseille, si ta molaire te fait mal, arrache-la. Si ta fille grandit, marie-la. C'est clair, c'est moins cher que le dentiste. Vous savez que l'âge légal au mariage en Iran est de 9 ans, précisément l'âge auquel le prophète a épousé Aïcha. Mais on ne précise pas que le mariage ne doit pas être consommé. Et aujourd'hui, je lisais dans le train À la limite, les retards de la SNCF ont du bon parce que on peut lire. Et j'ai trouvé, il y avait les sources, enfin, une revue qui est assez intéressante. Si, peut-être que je vais vous la montrer tout à l'heure. Et c'était les sources de l'islamisme, du salafisme, etc. Donc ça m'a intéressée. Et entre autres, à propos des femmes, il y a des pays qui voudraient ne pas fixer d'âge minimal au mariage du tout. Vous vous rendez compte? Bon. Alors que, sans parler des considérations, je veux dire, morales ou autres, le risque de décès parmi les femmes enceintes, âgées, bon, de 15 à 19 ans, est 4 fois plus élevé qu'entre 25 et 29 ans. Ne serait-ce que pour des raisons de santé. Le mariage précoce forcé est une des causes principales du doublement des cas d'immolation par le feu des femmes en une année dans certaines régions d'Afghanistan. Alors la polygynie, j'appelle ça, moi je ne dis pas polygamie, je dis polygynie. Que la polygamie n'existe pas. Les femmes n'ont pas le droit. Il n'y a que les hommes qui ont le droit d'épouser plusieurs femmes. Donc c'est la polygynie. Voilà. Elle est légale dans tous les pays arabo-musulmans, excepté la Tunisie, et tolérée dans les pays occidentaux. On estime à 20 000 ménages polygames en France. Ce sont les instances sociales qui me l'ont dit. Elles connaissent des familles polygames qui ont une vingtaine d'enfants. Et les autorités sont impuissantes à cause des enfants, soi-disant, pour protéger les enfants. Voilà. Évidemment, alors, les conséquences psychiatriques que je vous passe, vous imaginez aisément, mais ça a été démontré. La répudiation, bien sûr, une blessure narcissique profonde, qui dit polygynie, dit répudiation, risque très élevé de dépression, parce que la répudiation est l'emblème des événements de vie sévères qui provoquent un sentiment de perte, d'humiliation. Rendez compte, vous êtes répudié. C'est-à-dire qu'il suffit que le mari dise « tu es divorcé ». C'est tout. C'est tout. Bon. Donc, le sentiment d'humiliation, d'infériorité et de prise au piège qui peuvent prédire la dépression. On sait que quand la séparation est initiée par la femme, bon, 10% d'entre elles développeront une dépression. Mais quand la séparation se fait à la seule initiative du conjoint, 50% développeront une dépression. Alors, on arrive au devoir de fécondité. Avant d'être femme, tu seras mère, ma fille. Alors, on sait bien que en tout temps, en tout lieu, on continue à rendre un culte à la maternité. Badinter explique ainsi, la reproduction est à la fois un instinct, un devoir religieux et un autre dû à la survie de l'espèce. Attention. Et Michelet, je l'adore celle-là. La femme doit aimer et enfanter. C'est son devoir sacré. Si elle n'est pas épousée mère, elle sera éducatrice, donc n'en sera pas moins mère, et elle enfantera de l'esprit. Ah, consolons-nous. Alors, le statut social de la femme et les privilèges y afférents, bien sûr, est surtout tributaire de son aptitude à procréer. Évidemment. En Tunisie, une femme sur deux situe l'épouse stérile au plus bas de l'échelle sociale. Alors, si on doit faire une hiérarchie, l'épouse stérile, c'est vraiment la maudite par excellence. C'est le seul rôle de la femme auquel toutes les cultures rendent le plus vibrant hommage, pour mieux sans doute l'y assigner d'ailleurs. Enfin, contentant d'être mère, et tout va bien. En islam, mieux encore, les mères ouvrent les portes du paradis. Il y a un hadith du prophète qui dit « Le paradis est sous les talons des mères ». Et quand on a demandé un jour au prophète, quelqu'un est venu voir le prophète et lui a dit « Quelle est la personne qu'il faut aimer et respecter le plus au monde ?» Il dit « Ta mère. » « D'accord, et après ?» « Ta mère. » « Oui, d'accord, et après ?» « Ta mère. » Trois fois. « Et après ?» « Ton père. » Évidemment, on a aussi un proverbe en Tunisie qui dit « C'est ton père si ta mère a dit vrai. » Mais ça fait une autre quand même. Alors aujourd'hui, quand même, maternité rime avec culpabilité. Depuis leur accession au monde du travail, la maternité rime désormais avec culpabilité, car l'élevage des enfants reste du seul ressort des femmes. et que conseiller travail et famille relève de l'exploit. La question cruciale qui taraude la majorité des femmes est celle de savoir si entre materner et travailler, il ne faudrait pas choisir. Et de plus en plus nombreuses, maintenant je parle des pays développés, des pays chrétiens, des pays démocratiques, de plus en plus nombreuses sont les mères diplômées qui renoncent à travailler dans les pays développés. En Italie, aux États-Unis, en Allemagne, etc. C'est pour ça que je vous dis, soyons vigilantes. Alors évidemment, le primat de la maternité explique l'opprobre social qui pèse sur l'infertilité, quelle qu'en soit la cause. Enfanter est un devoir sacré, bien sûr, etc. Et qui explique que celles qui ne veulent... Alors, évidemment, quand on choisit, en plus, de ne pas faire d'enfants, mais alors là, on est le paria de la communauté. Bon, c'est refuser de remplir son devoir sacré. C'est pas possible. Donc, celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas le remplir s'exposent à être traitées comme des parias dans leur communauté. Alors, évidemment, dans les sociétés traditionnelles, comme les sociétés arabes, la stérilité est un réel drame qui justifie le divorce, c'est bien simple, c'est le premier motif de divorce, et génère un risque important de troubles mentaux. Deux études ont objectivé leur importance, une au Bahreïn et une en Tunisie, qui ont rapporté des taux, regardez, de 32 à 46% de troubles dépressifs et 43 à 55% de troubles anxieux dans des populations de femmes infécondes. C'était dans une clinique de traitement de la stérilité. Évidemment, la contraception est la source de tous les maux, etc. Et la ménopause, en arabe, s'appelle désespoir, tout simplement. Oui, c'est l'âge du désespoir, mesdames. Nous n'avons plus pu, effectivement. Ils ne se sont pas cassés la tête, hein, vraiment, alors là. Bon, c'est comment ne pas mieux dire que nous n'avons plus qu'à mourir, quoi, effectivement. La prévalence élevée des troubles anxieux, de 37 à 60%, et dépressifs, de 37 à 48%. Bon, c'est bien en Tunisie, au Maroc, évidemment, déclin de l'activité sexuelle, on n'en parle même pas, dans les deux groupes. 83% des femmes dans les deux pays confirment que la ménopause met naturellement, j'ai mis des guillemets, un terme à toute activité sexuelle. Le devoir d'obéissance et la violence faite aux femmes. Alors, la violence à l'égard des femmes est une réalité courante dans le monde entier, dit l'OMS, qui a de sérieuses implications pour la santé publique. Et la violence contre les femmes est une manifestation des rapports historiquement inégaux entre hommes et femmes. Voilà où est-ce qu'elle puise sa source. Des statistiques terrifiantes. Toutes les secondes, une petite fille est excisée. Toutes les secondes. Avec des conséquences parfois fatales et toujours dramatiques. Toutes les minutes, une femme meurt en couche, faute de soins appropriés. Toutes les deux heures, une femme est brûlée vive en Inde. Tous les ans, 5000 femmes sont victimes de crimes dits d'honneur, même dans des pays non musulmans, c'est-à-dire des pays occidentaux en Europe. Mais l'inégalité tue partout. Enfin, c'est l'inégalité, ce n'est pas la religion. Des dizaines de milliers de femmes tombent chaque année sous les coups de leurs partenaires. En France, une tous les trois jours, ce serait passé à deux jours et demi. Aux États-Unis, quatre par jour. Aux États-Unis, le nombre de femmes tuées par leur mari au cours des 10 dernières années a dépassé le nombre de soldats tués au Vietnam. Je ne sache pas qu'il y ait un monument érigé à la mémoire de ces pauvres victimes.
Non.
Au Bangladesh, les meurtres de femmes par les maris représentent la moitié de tous les cas de meurtre. Et c'est pour ça que, dans le livre auquel je faisais référence tout à l'heure, les auteurs concluent, ces 50 dernières années, plus de femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes que d'hommes ne l'ont été sur les champs de bataille du XXe siècle. Et la liste n'est pas exhaustive. Évidemment, ne parlons pas des viols collectifs qui sont devenus, eux, une arme de destruction massive, du trafic de femmes, les 3 millions de filles et de femmes prisonnières de l'esclavage sexuel, des violences sexuelles, 75 000 viols de femmes en France chaque année, de l'exécution de femmes pour rapports sexuels illicites. Là, je cœur tendre s'abstenir, je vais vous montrer des photos horribles, mais je tiens à vous les montrer. Donc, une scène de lapidation, on prépare la lapidation de cette malheureuse. Je voulais vous le montrer juste pour que vous voyez la femme qui y participe.
Oui.
Les femmes sont souvent les principales ennemies des femmes. Je voulais vous montrer également autre chose. Ça, c'est en cours de lapidation. Je voudrais que vous regardiez les pierres. Leur taille est fixée par décret. Faut pas qu'elles soient trop petites. Pour simplement blesser, érafler, etc. Faut pas qu'elles soient trop grosses. Parce qu'il faut faire durer le plaisir un petit peu quand même. Donc, la taille des pierres est fixée par décret. Mais vous réalisez ce que les hommes peuvent inventer. À quel point de barbarie et de cruauté ils peuvent en arriver quand il s'agit des femmes. Oh, la violence conjugale, ça devient après, à la limite, une petite gentille petite fessée. Et la violence domestique, et notamment conjugale, est selon l'OMS la plus emblématique des violences faites aux femmes et une des raisons majeures de l'inégalité des sexes face aux troubles mentaux. La violence domestique existe partout dans le monde et les femmes y sont 10 fois plus exposées que les hommes. Les femmes battues sont 4 à 5 fois plus exposées que les autres à avoir besoin d'un traitement psychiatrique, 5 fois plus exposées à tenter de se suicider. Environ un tiers souffre de graves dépressions, d'abus d'alcool, de drogue. Elles sont près de 50% à développer un état de stress post-traumatique. Au final, les femmes victimes de violences conjugales perdent entre 1 et 4 années de vie en bonne santé. 1 à 4 années, quand elles ne la perdent pas d'un seul coup. Alors ça, c'était juste pour vous montrer quelques études dans quelques pays arabes. Regardez le taux qui est vraiment pratiquement identique, le tiers, quelles que soient les populations de référence et les pays de référence. Alors, que disent les musulmans? Ils ont un bon alibi, ben, le fameux verset dont je parlais tout à l'heure, là, une bonne épouse est obéissante et discrète. Bon, quant à celle dont vous craignez la rébellion, bon, battez-les, c'est écrit. Bon, c'est écrit. Bon, discutez-y où vous voulez. La loi des hommes est venue renforcer cette, entre guillemets, autorisation religieuse, puisque le devoir d'obéissance figure dans tous les codes du statut personnel, sauf en Tunisie. Le code de la famille algérien, le réformé, hein, c'est même pas l'ancien, enjoint à l'épouse, texto, d'obéir à son mari et de respecter sa belle famille et les proches de son époux. Donc c'est pas seulement l'époux, faites attention, mais c'est toute la belle famille et tous les proches. Sinon, vous n'êtes pas une épouse obéissante. Et donc, vous vous exposez à être battue. Alors, entre autres, évidemment, gentille violence, les mutilations génitales féminines, que j'appelle moi « coupez-moi cet appendice masculin », pratiquée à grande échelle, y compris dans les pays démocratiques, au nom du relativisme culturel. Ce n'est que récemment en France, là aussi, c'est une dizaine d'années qu'elle a été interdite. Et encore, je ne sais pas si c'est très, très... La loi est parfaitement appliquée, si on ne continue pas à fermer les yeux. Elle n'a alors aucune justification religieuse. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle de toute façon la circoncision pharaonique, etc. C'est que ça remonte au moins au temps des pharaons. C'est une violation des droits de l'enfant qui provoque bien moins de débats que la fessée. Hein ? Ça me d'accord. Les crimes d'honneur, le sang, l'affloulant, particulièrement préoccupant du fait de leur apparent accroissement, même en Occident, et de leur quasi-totale impunité. Rarement poursuivis en justice, au motif qu'il s'agit d'une forme de violence privée qui concerne l'honneur de la famille. Au Pakistan, la pratique du karukari, ça veut dire homme déshonoré, femme déshonorée, autorise les hommes à tuer une femme de leur famille si elle est suspectée d'adultère. Suspectée. Les femmes kamikazes, on en parle très très peu, mais moi elles m'ont intéressée. Parce qu'elles témoignent du fait qu'elles veulent mourir comme l'homme à défaut de vivre à son égal. On assiste à une augmentation du nombre de femmes impliquées dans les attentats suicides. Moi, j'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai vu beaucoup de témoignages de survivantes, etc. Il y a une dimension dépressive et suicidaire majeure. L'homme qui commet un attentat suicide, là je caricature, hein, bon, se tue, mais ce qu'il cherche à faire, c'est tuer. Bon. Tandis que la femme, elle tue, mais pour se tuer, elle, pour se suicider. Et c'est comme beaucoup de suicides, comme le suicide par immolation, ce sont des suicides de protestation. C'est une double dénonciation, à la fois de l'ennemi, par exemple pour les Palestiniennes, les Tchétchènes, etc., et de la communauté. L'une d'elles avait écrit « C'était un acte contre l'occupation, mais c'est aussi pour moi le moyen de prouver à ma famille que je valais autant que mes frères, qui, eux, avaient le droit d'aller à l'université, tandis que cela m'était interdit. » Et voilà comment on en arrive à pousser des femmes qui sont des génitrices, les porteuses de vie, les donneuses de vie, finalement, à donner la mort. Moi, je trouve que c'est la pire des violences faites aux femmes. On en arrive alors à la conclusion. Quelques remarques. La supériorité sociale de l'homme a un coût exorbitant. Je voulais montrer un peu sur le plan de la santé, mais également sur le plan du développement. Une population qui n'est pas en très bonne santé ou qui se prive de la moitié de ses membres ne peut pas se développer normalement. Elle a un coût en matière de démocratie. Ça va de pair avec la dictature et la paix, évidemment. Toute la planète en sait quelque chose aujourd'hui. Alors, c'est un problème majeur de santé publique. Donc, l'égalité entre les genres n'est pas seulement un droit humain qui n'engage guère ceux qui croient obéir à Dieu. Bon. Mais un enjeu crucial de santé des femmes et des enfants, qu'elles sont trop souvent seules à accompagner dans leur développement. Mais évidemment, ce défi dépasse largement le seul cadre sanitaire et en appelle à une véritable révolution culturelle. Et là, je veux dire que le procès fait à l'islam est vraiment injuste. Et je cite vraiment deux grands théologiens, le premier est psychiatre. Les systèmes de croyances dans le monde arabe dérivent de sources islamiques et non islamiques. Bien des croyances liées à la subordination des femmes sont en réalité d'origine pré-islamique. Et Badawi, qui est un théologien très connu pakistanais, il est vrai que dans bien des pays dits « musulmans », mais des guillemets, les femmes ne sont pas traitées conformément aux droits que Dieu leur a accordés. Mais ce n'est pas la faute de l'idéologie islamique. Nombre de ces pratiques sont basées sur des coutumes culturelles traditionnelles. Aucune société, dit le Fonds des Nations Unies d'aide à la population, aucune société ne traite aussi bien ses femmes que ses hommes. Mais ceci est particulièrement vrai dans les sociétés traditionnelles. Et l'OMS renchérit aujourd'hui le statut et le bien-être de centaines de millions de femmes demeurent tragiquement bas dans le monde entier. Alors, l'infériorité des femmes est-elle une prescription islamique ou un abus patriarcal ? Alors, je vous rappelle que saint Paul, dans la première épître à Timothée, avait dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle se tienne donc au silence. » Bien plus tard, un sénateur français avait lancé dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, « Plutôt que d'envoyer les femmes au travail, mieux vaut les envoyer au lit. » Pas avec lui, en tous les cas. Et enfin, la meilleure et la plus récente, vraiment, l'exclamation du cœur, le cri du cœur de Laurent Fabius, mais qui va garder les enfants quand Ségolène avait annoncé son intention de se présenter à la présidence de la République? Mais il n'a pas posé la même question quand Hollande s'est présenté. À moins qu'en 5 ans, les enfants avaient grandi. Ils n'avaient plus besoin. Alors, si... Mais c'était vraiment un cri du cœur. Alors, si un Laurent Fabius peut dire ça... Je suis désolée, moi, je ne vais pas vraiment jeter la pierre à un berger, à un bédouin d'Arabie Saoudite. Alors, l'égalité est un enjeu majeur de développement. Le président Bourguiba, le premier président tunisien, avait dit « Une société privée de la moitié de ses membres est comme un corps frappé d'hémiplégie. » Cette image est très très belle. Bon. L'égalité entre les genres figure au rang des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Vous savez que les Nations Unies se sont réunies et ont fixé 8 objectifs du millénaire pour le développement, qu'on devrait atteindre en 2015 normalement. Hein. C'est dans 2 ans. Bon, entre autres, l'égalité entre les genres. C'est bien reconnaître qu'elle n'existe pas. Et j'aime bien cette phrase aussi de la Banque mondiale que je préfère garder en anglais pour le jeu de mots. Si le développement n'est pas engendré, bon, il sera mis en danger. Alors, l'égalité est un enjeu majeur de démocratie. Vous n'avez qu'à regarder une carte du monde, vraiment, et vous verrez le parallélisme frappant entre le statut des femmes et le déficit démocratique. Bon, c'est bien ça. Un leader algérien, politique algérien, Nourdine Saïdi, qui est également psychiatre, avait dit le 17 mars 2011, c'est autour de la femme que va se jouer la démocratie. Et à ce sujet, je vous rapporte juste cette anecdote qui courait au moment de la guerre civile en Algérie, parce que les Algériens ont beaucoup d'humour, surtout en moment de crise. Donc c'était la grande bataille homérique qui opposait le FIS, le Front Islamique du Salut, au FLN, le Front de Libération Nationale. Et les Algériens disaient, eh ben, ce qui les sépare, ben, c'est leur programme. Vraiment, ça n'a rien à voir. Le FLN, c'est femmes libres la nuit, et le FIS, c'est femmes interdites de sortie. Voilà. Le programme ne tourne qu'autour de la femme. L'égalité entre hommes et femmes est la première des promesses d'égalité entre les humains. Et comme disait Condorcet, où tout le monde a les mêmes droits, où personne n'en a. Et donc, promouvoir les femmes, pour moi, c'est soutenir la démocratie. Et c'est à nous à choisir la société dans laquelle nous voulons vivre, celle d'en haut ou celle d'en bas. Et je vous remercie.